Bonsoir et bienvenue dans le grain à moudre d'été. Ce soir, les festivals sont-ils encore profitables aux artistes ? Il reste une semaine, 15 jours pour les plus chanceux avant la fin des vacances, autrement dit avant la fin de la saison des festivals. L'été, ce sont des centaines et des centaines d'événements qui sont organisés en France, près de 700 uniquement pour la musique. Cette année, la saison a été marquée par la colère de nombreux photographes, colère à propos de leur rémunération lors des festivals. Ils l'ont dit dans une tribune au début de l'été, un texte publié dans Libération dans lequel ils appellent à l'aide. « Nous sommes peu, voire pas payés par les festivals dans lesquels nous exposons », écrivent-ils, notamment avec, en tête et en ligne de mire, entre autres, les rencontres d'Arles. Et ces photographes ne sont pas les seuls à dénoncer cette situation et à s'en inquiéter. Il y a aussi de nombreux comédiens dans le Off à Avignon, par exemple, et de nombreux musiciens, artistes qui se sentent menacés. D'où cette question, ce soir, les festivals sont-ils encore profitables aux artistes ? Pour répondre à cette question, trois invités. Benoît Thibergien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du festival Détour de Babel, organisé au printemps à Grenoble et dans l'Isère. En ligne également avec nous au téléphone, Françoise Benamou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités, auteur de L'économie de la culture aux éditions de La Découverte, livre que vous avez par ailleurs récemment mis à jour. Au téléphone également, Stéphane Lagoutte, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes photographe, co-directeur de l'agence Myop et vous êtes l'un des rédacteurs et des signataires de la tribune que j'ai évoquée il y a quelques instants, tribune publiée donc par Libération début juillet. Pour commencer, je voudrais parler des différents types de festivals pour bien cerner le sujet, car il y a évidemment plusieurs tailles de festivals qui ne se déroulent pas d'ailleurs toujours à la même période de l'année. Je l'ai dit avec le vôtre, Benoît Thibergien, qui a lieu au printemps. Quand on parle des festivals, Benoît Thibergien, de quoi parle-t-on ?
Alors, il y a autant de différences de festivals que de festivals eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur propre logique, architecture, dimension et mission. Alors, évidemment, il y a les gros, hein, ceux dont on parle souvent, les blockbusters, qui sont des grosses machines qui rassemblent énormément de monde. Et puis, il y a des festivals de moyenne catégorie. Et puis, il y a les tout petits festivals qui peuvent se dérouler sur une ou deux journées dans un petit village et qui sont portés par des bénévoles. Voilà, donc on est entre le blockbuster et puis le festival d'art et d'essai.
Françoise Benamou, la réalité hein, des festivals, du monde des festivals est très contrastée.
Effectivement, c'est extrêmement varié, comme ça a été dit, en taille, par les thématiques, par l'histoire même des festivals. Hein. Certains ont 50 ans, d'autres sont beaucoup plus jeunes, certains durent deux jours, d'autres durent un mois. Vous avez des festivals qui ont une très forte signification par rapport au territoire dans lequel ils s'ancrent, ce qui fait que chaque festival est différent des autres. Ils ont un statut différent, un niveau de subvention aussi extrêmement variable, et donc c'est presque devenu un mot valise pour désigner une des formes à la fois des consommations culturelles aujourd'hui et de l'offre culturelle. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un engouement du public, ça c'est incontestable, et en même temps, une variété de modèles économiques est extrêmement frappante.
Justement, précisons un peu ces modèles économiques. Rapidement, on va l'évoquer un peu plus en détail tout au long de l'émission. Mais Françoise Benamou, ces modèles, concrètement et rapidement, à quoi ressemblent-ils ?
Alors au départ, le festival, c'était un peu ce qui s'opposait à l'institution. Et beaucoup d'économistes l'ont vu comme ça, en disant, mais dans le fond, on se passe des coûts qui sont extrêmement lourds, et pour avoir des coûts beaucoup plus fluides. Et c'était vraiment ça l'idée. Et puis, petit à petit, vous avez eu toute cette variété de festivals qui se sont créés. Alors vous avez des festivals qui appartiennent à des grands groupes, dans des logiques qu'on pourrait qualifier d'intégration verticale. Hein, c'est-à-dire qu'on signe avec des artistes, on propose des productions, on propose de la musique en streaming, etc. Et ces grands groupes sont de plus en plus importants. Hein. C'est par exemple Vivendi. Vivendi possède un exemple, les Déferlantes à Perpignan, qui est un festival de taille moyenne. Vous allez avoir des groupes multinationaux, comme Live Nation, comme AEG. Live Nation, c'est le leader mondial de l'organisation de spectacles. Hein. Ils en organisent à peu près 22 000 par an. C'est un groupe américain qui a racheté des festivals importants comme I Love Techno, comme Main Square et d'autres. Et puis, à côté de ça, vous avez, ça a été très bien dit, vous avez des petits festivals qui, eux, ont une organisation avec quelquefois beaucoup de bénévoles. Ça peut même être des festivals de moyenne taille, donc des bénévoles et un système qui est associatif et à but non lucratif.
Mmh. Avec des financements qui peuvent être privés, public, à la fois public et privé. Oui, Benoît Bergien.
Oui, il y a à peu près 70% de festivals qui sont des festivals associatifs. Entre 15 et 20% de festivals qui sont plutôt liés à des collectivités, et puis 6% de festivals complètement privés. Donc on a quand même une majorité de festivals qui sont des festivals associatifs, indépendants, et qui fonctionnent dans une économie avec des ressources propres, également des subventions qui sont très variables en fonction des cas des festivals et des catégories. Mmh.
Quel que soit le modèle économique, quelle que soit la taille d'un festival, pour qu'il marche, pour qu'il fonctionne, il faut une rencontre entre un public et des artistes. On va s'intéresser aux artistes maintenant. Est-ce que vous rémunérez déjà, Benoît Tibergien, les artistes qui viennent participer à votre festival des Tours de Babel à Grenoble et dans l'Isère?
Alors, je suis un peu surpris de la question parce que...
Ah ben, elle se pose, donc c'est pour ça que je vous la pose.
Bien sûr que je rémunère les artistes, c'est tout à fait normal puisque c'est un...
Vous êtes tenu de le faire légalement?
D'abord, je suis tenu de le faire légalement puisque l'interprète est a un statut de salarié. Et donc, on le rémunère à ce titre-là. Je rémunère aussi, puisque les détours de Babel passent commande aussi à des compositeurs, donc je rémunère aussi les compositeurs. Je pense que là, on abordera le statut des compositeurs, qui est peut-être proche de celui des photographes dont on parlait tout à l'heure, donc de ces artistes indépendants. Et puis aussi, faut pas oublier que le spectacle, c'est beaucoup de techniciens. D'intermittents du spectacle qui font partie de toute cette organisation qui fait que le festival peut avoir lieu en bonnes conditions.
C'est un frein parfois, Françoise Benamou, l'argent que doivent donner les festivals aux artistes, c'est un frein parfois pour certains artistes, pour qu'ils viennent dans les festivals?
Alors, j'arrive pas à dire que c'est un frein, parce qu'il me semble que c'est naturel de rémunérer les artistes. Simplement, ce qu'on observe, c'est que effectivement, il y a une polarisation des rémunérations avec certains artistes vedettes qui peuvent demander beaucoup d'argent. Et là, c'est vrai que certains festivals vont pouvoir se le permettre et d'autres non, plus difficilement. Hein. C'est plutôt là que ça se joue. Hein. Vous avez des festivals qui peuvent faire des efforts considérables pour avoir un exemple aux Vieilles Charrues, Dépêche Mode, ça va coûter à peu près 1 million d'euros la soirée. Et c'est un choix qui est fait par un festival qui est très installé, qui a des recettes de billetterie suffisamment importantes, etc. Mais sinon, c'est vrai que ce qu'on observe, c'est ce problème de polarisation avec des artistes vedettes et d'autres pour lesquels le festival, c'est aussi un des lieux où ils vont construire leur notoriété.
Un million d'euros par soirée, on est loin, très loin de la rémunération de certains artistes, et ce ne sont pas les photographes qui vont me contredire sur ce point, car les photographes rencontrent plusieurs problèmes, notamment dans les festivals, et c'est ce qui nous intéresse ce soir. Problème énoncé au début du mois de juillet, je le disais, dans une tribune publiée par le quotidien Libération, je vous en cite quelques lignes. De plus en plus de lieux ou d'événements ne prévoient aucun droit d'auteur pour les photographes, pourtant fournisseurs de la matière première, et alors que tous les autres postes sont rémunérés, du menuisier qui construit les cimaises au directeur du lieu ou du festival, le photographe est trop souvent le seul à ne pas l'être. Je me tourne vers vous maintenant, Stéphane Lagoutte. Les photographes ne sont pas payés souvent quand ils exposent leurs images dans un festival?
Oui, donc ça, en fait, ça démarre bien l'émission parce qu'effectivement, tout le monde a l'air surpris que les artistes ne soient pas payés. A l'air de trouver évident qu'ils le soient, en tout cas, payés. Les photographes, oui, d'une manière générale.
Ça ne vous étonne pas que les artistes ne soient pas payés puisque vous êtes concerné, c'est ça?
Ah bah ça nous est, enfin disons que ça ne m'étonne pas parce que je connais les habitudes dans la profession, mais c'est tout simplement aujourd'hui devenu une chose qui est impossible pour nous en tant que photographes, parce que pour différentes raisons, hein, notamment du fait de la précarisation du métier aussi, d'une manière générale, qui commence par la presse, hein, qu'on connaît, et justement la lettre de Libération là fait suite à une première lettre qui avait eu lieu il y a un an et demi et qui nous a permis de nous fédérer à propos des retards de paiement dans la presse. Donc c'est une autre question, mais en tout cas c'est une autre question qui rejoint celle-là, puisque en fait je pense que au départ si les festivals ne payaient pas les photographes, c'est simplement parce que peut-être que le modèle économique de l'époque le permettait. Aujourd'hui le modèle économique de la photographie ne permet plus que de se satisfaire d'une simple visibilité dans un festival.
Pour préciser une chose, c'est que les Rencontres d'Arles, hein, qui est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand festival estival en France, a décidé de payer cette année, hein, les photographes qui exposaient au cours de ces rencontres 500 € par personne, c'est bien ça?
Oui, alors vous voyez, ça reste encore très symbolique les concernant. Mais c'est déjà un premier pas, c'est-à-dire que nous, notre première lutte, c'est aussi déjà avant tout qu'il y ait une ligne qui s'inscrive, qu'il y ait cette mauvaise habitude de ne pas payer des photographes qui disparaissent. Donc que la ligne existe, c'est déjà un premier pas important. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il y a des festivals de moindre envergure qui payent beaucoup mieux leurs photographes. Je pense à la Gacilly ou à MAP à Toulouse, qui sont des festivals de moindre envergure qui, avec le temps, là, avec les années, prennent de plus en plus d'envergure eux aussi, mais réussissent à payer convenablement les photographes à hauteur de 1 500-2 000 € par exposition, quoi.
Françoise Benhamou, est-ce qu'il y a d'autres festivals à votre connaissance, festivals de photographie, qui ne rémunèrent pas les artistes qui exposent?
Alors ça, je ne saurais pas vous dire, mais c'est vrai que ce qui a été dit est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où à la fois les photographes pouvaient accepter, dans le fond, de ne pas être payés, d'abord parce qu'ils gagnaient par ailleurs leur argent et qu'ils se disaient qu'il y avait un capital de notoriété qu'ils pouvaient gagner à la participation au festival. Ça n'est plus possible. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans une précarité croissante et dans une tension qui me semble très très frappante entre la reconnaissance de la photographie de plus en plus forte dans les musées, comme art majeur, etc., et en même temps la précarisation de la situation du photographe, notamment dans la presse, mais aussi au-delà. Et ça, cette tension, c'est devenu insupportable. Et évidemment, ça se donne à voir dans un festival de la notoriété de celui d'Arles. Donc je ne saurais pas vous dire si ils sont de combien ils sont rémunérés, mais même la proposition qui a été faite par le directeur le président d'Arles, là, ça reste quelque chose qui est très faible, hein, c'est-à-dire ce sont 500 € pour les expositions individuelles de photographes lors du festival. Donc pour toute une exposition, 500 €, c'est extrêmement peu quand on sait tout le travail en amont que cela peut représenter.
Tout travail mérite salaire, hein, on a l'habitude de le dire, Stéphane Lagoutte. Pourquoi alors les photographes acceptent-ils d'aller exposer leurs œuvres alors qu'ils ne sont pas payés?
Bah, c'est un petit peu... on en est presque à un niveau maintenant où en fait le photographe, même quand il bosse pour la presse, on vient à remercier les iconos qui le font, les iconographes qui le font travailler. Alors que ça pourrait être l'inverse, c'est-à-dire que si on est appelé, c'est qu'on fait du bon travail et qu'on amène une valeur en fait dans leur magazine. C'est un peu pareil pour les festivals, c'est-à-dire que on continue d'accepter parce que malgré tout avoir une exposition aux Rencontres d'Arles nous permet d'être présent à Visa en tant que reporter, de faire circuler notre nom, mais c'est pas suffisant tout simplement. Et de toute façon, c'est vrai que nous, ce qu'on demande, c'est que le droit soit respecté, c'est-à-dire qu'il y a un droit de présentation qui amène des obligations de rémunération, et c'est ce qu'on demande. Alors c'est aussi lié à la valeur travail effectivement dont parlait Madame Benhamou là. Qui est que faire un travail d'une telle importance qu'il puisse être exposé dans ces festivals-là demande un grand temps de travail, et concrètement c'est aussi lié au fait qu'on a très peu de systèmes de subventions, d'aide à la création dans notre secteur. Il n'y a pas de système de CNC, il n'y a pas d'intermittence, on n'a absolument rien du tout. Donc la valeur des photographies en est d'autant plus importante en fait.
On va revenir sur les éventuelles solutions à ce problème. Un dernier mot sur les relations entre les festivals et les photographes, Stéphane Lagoutte. Est-ce que certains festivals vous achètent des images pour compenser en fait le fait qu'il n'y ait pas de rémunération, et est-ce qu'ils vous offrent aussi des encadrements ou des tirages?
Oui, alors les tirages, ça peut arriver, les encadrements plus rarement. Ça, on est plutôt dans le système des institutions, des musées. Alors c'est encore un autre secteur, hein, mais même dans ce secteur-là.
Mais pas pour les festivals, donc.
Les festivals, non, il n'y a pas d'achat d'œuvres. Les achats d'œuvres, on est dans les musées où, malgré tout, c'est une pratique un peu compensatoire, mais c'est pas non plus tout à fait la bonne pratique à l'arrivée. C'est qu'il peut y avoir achat d'œuvres, mais il devrait y avoir malgré tout rémunération à doser selon les musées, selon les institutions, et selon leur taille et selon ce qu'ils peuvent faire dans l'achat et dans la répartition des deux. Mais ça m'est arrivé pour un festival en fait qu'on m'ait acheté une œuvre, mais c'était un festival financé par un mécène qui lui était intéressé par la photographie. Et du coup, ils m'ont payé à la fois des droits d'auteur et un achat d'une œuvre en plus. C'était le Festival du Regard. Voilà.
Françoise Benhamou.
Oui, il y aurait deux points peut-être à ajouter sur Arles. Au départ, c'était un festival gratuit. L'idée, c'était que on allait faire entrer la photographie dans ce monde des festivals où elle n'était pas encore entrée. Et donc, c'est seulement à partir de 2001 que le festival est devenu payant. Pas cher, hein, d'ailleurs, et il est gratuit pour les Arlésiens, mais l'idée était au départ vraiment cette espèce de démonstration, dans le fond, de l'existence de la photographie. Et donc, c'est peut-être une des explications aussi du fait que on n'a pas, au départ, payé les photographes, et puis après, on a peut-être un peu profité de cette situation qui était acquise. Puis le deuxième point dont souffre énormément la photographie aujourd'hui, c'est la concurrence que je qualifierais de déloyale, des banques d'images sur Internet. C'est-à-dire que maintenant, quand vous voulez une image pour illustrer quelque chose, la tentation d'aller chercher pour quelques centimes ou quelques euros une image qui, finalement, n'est pas de la qualité de celle qu'offrirait un photographe, mais qui, dans le fond, peut convenir, ben ça fait que, du coup, le travail qu'ont les photographes, c'est littéralement effondré en quantité et la demande en qualité, elle aussi s'est effondrée, et avec l'idée, dans le fond, que on pouvait substituer des images de moindre qualité à celles d'un vrai photographe.
C'est ce qu'évoquait Stéphane Lagoute tout à l'heure en parlant de la crise de la presse qui touche aussi directement les photographes. Quelle solution à ce problème? Quelles sont les pistes que vous aimeriez voir explorer, Stéphane Lagoute?
Tout simplement que les choses soient prises en compte et que je pense qu'on peut intégrer une ligne de rémunération des photographes. Pourquoi c'est possible dans les autres festivals concernant la musique, concernant le théâtre, et ça ne serait pas pour la photographie? Je vois pas trop de...
Les organisateurs pourraient vous répondre qu'ils n'ont pas d'argent pour vous payer, parce qu'après avoir payé les autres postes de dépenses...
Oui, mais c'est souvent une volonté politique, malgré tout ça. Moi aussi, j'avais le même problème avec les instituts français à une époque où, finalement, on voit des choses qui sont la représentation de la France, des bâtiments énormes avec 100 personnes qui travaillent dedans, et puis quand on expose, on a juste le droit de se faire payer des tirages, mais on n'est pas payé, on est défrayé.
Donc c'est la responsabilité des organisateurs et celle des pouvoirs publics?
Alors les pouvoirs publics, oui, nous, c'est vrai que on demande à ce que leur subvention soit conditionnée à l'application du paiement des auteurs, quoi. Ce qui va être le cas, ce qui devrait être le cas avec les subventions pour la presse par rapport au retard de paiement, mais il n'y a pas de raison que finalement l'État donne un certain nombre d'euros à un festival qui ne paiera pas ses auteurs. Je comprends bien la notion d'économie, mais encore une fois, il y a des festivals qui arrivent très bien à payer des auteurs. Pour moi, c'est quand même une volonté politique à l'arrivée.
Françoise Benhamou, le fait de conditionner le versement de subventions publiques à la rémunération des artistes, des photographes en l'occurrence, est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà et qui vous semble être une bonne solution?
Oui, et c'est extrêmement sain. C'est l'idée que, dans le fond, il faut que les gens suivent les règles qui sont celles de la logique de l'expression artistique. Par exemple, on pourrait tout à fait inventer un système bonus-malus, dans le fond, de la part de l'État, qui aiderait plus les festivals, qui s'en comporteraient mieux vis-à-vis des artistes, et notamment dans le cas d'Arles, il y a sans doute aussi à faire évoluer le modèle économique. Il y a un budget de 7 millions d'euros, il y a des ressources propres de l'ordre de 60% à peu près du budget. Il faut absolument réorienter une partie du budget vers la rémunération des artistes, quitte à légèrement réduire la voilure, légèrement augmenter le tarif qui est payé, légèrement faire un travail sur les produits dérivés, les produits de restauration, etc. Il y a tout un travail à faire sur le modèle économique, mais les artistes et les photographes en l'occurrence n'ont pas à être les parents pauvres de l'allocation des budgets.
Benoît Thibergien, ce système de conditionnement des subventions publiques à la rémunération des artistes, vous, c'est quelque chose qui est pratiqué au sein de votre festival, les Détours de Babel, ou sinon, est-ce que c'est quelque chose, un système qui vous semble plutôt sain, comme le disait Françoise Benhamou?
Non, c'est un système qui me semble simple, mais quand j'écoute le problème des photographes, Évidemment, je pense aussi aux plasticiens, je pense aussi en fait à tous les artistes qui n'ont pas de statut particulier autre que celui d'artiste, qui vivent de leurs droits. Et des compositeurs qui aussi parfois composent et ne sont pas payés pour être composés parce qu'ils ont envie de jouer et qu'ils n'ont pas parce que l'organisateur n'a pas les moyens de pouvoir payer une commande d'écriture. Alors l'État compense ça par les commandes d'État, ce qu'on appelle les commandes du ministère de la Culture, mais elles sont pour un certain nombre de compositeurs et c'est bien loin de pouvoir satisfaire l'ensemble des compositeurs qui écrivent des œuvres. Ça, je parle plutôt pour les œuvres contemporaines. Et donc, les compositeurs ont un autre métier, c'est-à-dire que où ils sont chefs d'orchestre, où ils sont directeurs de conservatoire, où ils sont enseignants, chercheurs, directeurs artistiques parfois, parce que leur métier de compositeur ne leur permet pas de pouvoir avoir suffisamment de rémunération pour vivre correctement. Je pense qu'il doit y avoir à peu près que 2 ou 3% de compositeurs aujourd'hui qui vivent réellement de leur musique, c'est vraiment très très peu.
France Culture, du grain à moudre d'été, Antoine Janton.
Les festivals sont-ils encore profitables aux artistes? C'est la question que nous nous posons ce soir dans le grain à moudre d'été avec 3 invités. Benoît Thibergien, que vous venez d'entendre, directeur du festival des Tours de Babel. Vous êtes aussi administrateur de l'organisme France Festival. Au téléphone, Françoise Benamou, professeur des universités, spécialiste de l'économie de la culture, et Stéphane Lagoutte, photographe, co-directeur de l'agence Myop. Vous venez de dire, Benoît Thibergien, qu'il n'y avait pas que les photographes qui sont touchés par ce problème de rémunération lors des festivals, qui ne sont pas payés pour exposer leurs œuvres. Il y a les compositeurs, les plasticiens. Françoise Benamou, est-ce qu'à votre connaissance, il y a aussi d'autres artistes qui sont dans le même cas?
Bien sûr, on retrouve le même sujet à propos du livre aujourd'hui. Vous savez, il y a eu au moment du Salon du Livre à Paris une sorte de révolte de la part des auteurs qui ont dit « mais quand on fait une lecture, quand on donne une conférence pour accompagner la publication d'un livre, eh bien on veut être rémunéré parce que ça fait partie, dans le fond, du travail qu'on fournit. » Et les éditeurs ont eu du mal à entendre cette revendication en disant « mais non, c'est la publicité qui est faite pour votre livre, donc c'est normal, ça entre en jeu de cette manière-là. » Donc on voit bien que le sujet, il est présent dans tous les domaines et il est d'autant plus présent qu'on est dans une période où à la fois la culture est consommée sous diverses manières, mais où la valorisation des œuvres est plus difficile et donc la lutte, si je puis dire, pour le partage de la valeur est beaucoup plus tendue qu'elle ne l'a été.
Il y a aussi certains comédiens, c'est ce que disait le directeur du HOF à Avignon, 70 artistes sont sous-payés, c'est ce qu'affirme aussi un article des Échos qui a été publié cet été. Pierre Beffet, donc je le disais, le président du festival HOF, disait: si toutes les compagnies veulent venir à Avignon, c'est aussi parce qu'elles ont de moins en moins de travail sur le territoire et qu'elles n'ont guère d'autres choix pour se montrer. 1538 spectacles au festival HOF à Avignon en juillet, un nombre d'ailleurs qui est en hausse constante depuis des années. Est-ce que ces comédiens là aussi représentent un problème particulièrement marquant, Françoise Benamou?
Oui, alors Avignon, c'est devenu un marché du spectacle, c'est-à-dire que vous avez des petites compagnies, quelquefois un peu moins petites, qui dans le off essayent de montrer leur spectacle pour qu'il soit acheté, pour qu'il puisse tourner. Alors c'est vrai que du coup, elles sont presque dans une situation d'auteur-payeur, comme on dit dans le domaine des revues scientifiques, c'est-à-dire qu'elles sont amenées à dépenser de l'argent et à ne pas rémunérer éventuellement les comédiens dans l'espoir d'être repérées et de pouvoir ensuite tourner en France ou ailleurs et se faire connaître. Et donc c'est cette logique-là qui est extrêmement difficile à gérer parce que on voit bien donc des comédiens qui sont des semi-professionnels ou des professionnels vont se trouver à travailler sans être rémunérés pour cette raison-là. Et donc là aussi, il faut sans doute revoir un peu le modèle économique. Je pense que le HOF se développe de manière un peu folle aujourd'hui et peut-être qu'il y a à revoir cela. Il y a peut-être un peu moins de spectacles qui soient montrés et dans des conditions où les artistes sont plus à la fois mis en valeur et aussi rémunérés.
Benoît Thibergien.
Oui, je sais aussi, parce que j'ai pas mal d'amis qui font le Festival d'Avignon, qui sont même dans le domaine de la musique, puisqu'il n'y a pas que le théâtre, qui pour eux investissent, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent. C'est-à-dire que non seulement ils ne sont pas payés, mais...
Ils risquent de perdre de l'argent.
Ils investissent, ils louent une salle, et c'est très cher. Et puis, dans le off, je crois que c'est que les compagnies investissent à peu près 20 000 euros pour être présents au festival. Donc, c'est un investissement à perte. Donc, ils mettent de l'argent de leur poche dans la perspective d'être repérés par des programmateurs et éventuellement de pouvoir... peut-être rentabiliser cet investissement, mais non pas tout de suite, mais deux ans après, parce que le rythme des programmateurs fait que quand on est repéré au mois de juillet, on passe dans la saison N+1, quoi. Donc c'est assez compliqué, mais dans le domaine de la musique, il y a aussi des manifestations qui sont des types showcase, des salons, où les artistes ne sont pas payés ou quasiment pas payés parce que c'est de la promotion, de la visibilité dans la perspective de pouvoir être repérés par des programmateurs qui sont des salons professionnels. Quoi.
Les artistes que vous rencontrez, Benoît Thibergien, dans votre festival ou ailleurs d'ailleurs, vous font-ils part de cette inquiétude de ne pas être payés lorsqu'ils se produisent, alors dans des festivals ou dans d'autres cas comme vous venez de l'évoquer?
Disons que l'inquiétude est à un autre niveau, c'est-à-dire qu'il y a une précarisation, il y a une sorte de fossé qui se crée entre ceux qui sont super payés. On parlait de Beyoncé à plus d'un million d'euros, mais là on est dans une logique d'industrie musicale. Une grande majorité des artistes qui sont pas dans ce courant de l'industrie sont à partir du moment la possibilité pour eux de jouer dans des festivals ou dans des lieux qui sont des lieux subventionnés souvent, compte tenu de l'érosion des financements publics, il y a aussi une marge qui diminue progressivement. Et donc, globalement, les gros cachets dont on parlait tout à l'heure continuent à augmenter. C'est très inflationniste. Et en revanche, les cachets moyens diminuent petit à petit. Donc on passe de 1 million d'euros à 100 euros pour un groupe de musique actuelle qui veut venir jouer. Ce sera le minimum syndical. Ça va être
100 euros pour un festival?
Pour pouvoir jouer c'est un peu l'ambitus entre les petites rémunérations et les grosses rémunérations est en train de s'accentuer.
Il y a des solutions. Je vais revenir à Avignon Festival et Compagnie, l'organisme qui organise le off à Avignon a lancé un fonds de soutien l'an dernier pour aider les comédiens et les artistes qui participent à ce off d'Avignon. Stéphane Lagoutte, est-ce qu'un fonds pour les photographes sur le même modèle pourrait vous séduire et vous convaincre?
Un fonds de soutien qui vient d'où? J'ai pas...
Là, ce serait un fonds de soutien en lien avec les pouvoirs publics.
Oui, bien sûr. Alors, on parlait tout à l'heure aussi des aides individuelles, notamment il pouvait y avoir des aides du CNAP. Et effectivement, comme le disait justement Monsieur Thibergien, c'est très minime, c'est-à-dire que ce sera 20 personnes sur l'année qui seront aidées par ça, quoi.
Quand vous entendez qu'il y a d'autres artistes qui sont concernés par les problèmes que vous rencontrez, compositeurs, plasticiens, musiciens, comédiens également, est-ce que ça vous donne envie d'aller les voir, d'aller discuter avec eux, éventuellement de vous unir à eux pour mener des actions auprès des pouvoirs publics et auprès des festivals également?
Ouais, alors il y a plusieurs choses. On avait entendu parler effectivement du mouvement des auteurs en littérature. À la base, finalement, en photo aussi, c'est un métier assez individuel. Il y a peu de regroupements, peu de syndications. Là, on parlait de tarifs minimum syndical pour la musique. C'est très peu présent en photographie. Alors nous, on a la chance, là, moi en tout cas, j'ai la chance de faire partie d'une agence MIOP qui défend les auteurs. Il y en a d'autres en France avec qui on a écrit la lettre. Il y a pendant Slou, Signature, Mode, il y a un certain nombre d'autres agences dans ce sens-là. Il faut voir que maintenant, ces agences-là permettent de défendre, s'intéressent aux questions de défense des auteurs, contrairement aux gros groupes tels Getty ou des grands groupes américains, voire français pour certains. Et nous, notre but, c'est que ça retombe aussi sur l'ensemble de la profession. Donc c'est pour ça aussi que notre démarche a été validée par Raymond Depardon et Françoise Huguier, qui soutiennent la cause avec l'intégrité qu'on leur connaît. Mais c'est déjà très difficile de s'élérer entre nous. Oui, pourquoi pas essayer de s'intéresser aux questions des autres. On est loin. J'espère que effectivement les plasticiens, entre autres, toutes ces personnes-là pourraient aussi se réunir. Mais justement, eux ne bénéficient pas, je pense, de structures telles que des petites agences qui sont investies dans la cause, quoi.
C'est beaucoup plus disséminé.
C'est d'autant plus difficile pour eux, quoi.
Le ministère de la Culture a répondu à votre tribune. Est-ce que vous avez déjà eu rendez-vous ou est-ce qu'un rendez-vous a été pris pour évoquer vos problèmes?
Alors, il y a des rendez-vous qui ont été pris depuis maintenant quelques mois par groupe de travail. On avait déjà, malgré tout, un peu connu ça, déjà sous Frédéric Mitterrand avec la mission photographique. On a eu plusieurs expériences un peu comme ça. On espère cette fois que ça va porter ses fruits. Il avait été évoqué déjà à l'époque une question, une espèce de CNC de la photographie. Marion Islaine connaît bien les questions photographiques et la réponse qu'on a eue, c'est qu'effectivement...
Vous voulez dire Françoise Nyssen, hein, c'est ça?
Non, Françoise Nyssen et Marion, qui est déléguée à la photographie, connaît très bien les questions photographiques. Donc, elle se fait un bon relais pour nous aussi. Et Françoise Nyssen, oui, a évoqué le fait que c'était plus acceptable qu'on soit pas... Enfin, elle a dit clairement qu'on devait être rémunéré et qu'il y a une date fixée, a priori, en octobre, mais on espère, en tout cas, que ça portera. Oui.
Revenons au festival et au mode de financement du festival, à l'argent que les festivals peuvent recueillir à la fois de la billetterie, des pouvoirs publics, du secteur privé aussi. Certains ont fait appel au mécénat, c'est le cas du Hellfest, festival de musique métal à Clisson en Loire-Atlantique. Son directeur Ben Barbeau, interrogé sur Télé Nantes, en parlait, c'était il y a 3 ans.
C'est une des possibilités maintenant, le mécénat, oui. Et moi qui ai l'habitude de discuter avec énormément de collègues qui ont eux aussi des gros festivals dans leur région, sont tous partis sur ce modèle. Les vieilles charrues font de même, les eurokéennes font de même. Alors nous, on travaille dessus depuis maintenant 5-6 ans. Un club des supporters a été monté, un club des supporters où les entreprises locales essentiellement peuvent adhérer. C'est à peu près une centaine d'entreprises qui va de l'artisan jusqu'à quelques belles entreprises de plus de 100 salariés qui participent effectivement à ce club. Par exemple, une entreprise agroalimentaire va nous donner un certain nombre de produits pour nos restaurants, etc. Et en contrepartie, va pouvoir effectivement recevoir un crédit d'impôt de 60% sur cette donation. Quand on est arrivé à Clisson, on faisait peur aux partenaires, on faisait peur aux entreprises, on faisait peur aussi aux Clissonnais, aux politiques, etc. Maintenant que le festival a acquis un certain nombre de lettres de noblesse, entre guillemets, il est plus facile pour nous d'aller convaincre.
Le mécénat pour avoir plus d'argent et éventuellement donc pour pouvoir payer les artistes, est-ce que ça vous semble là aussi une solution, Françoise Benhamou?
Le mécénat n'est pas une solution de substitution aux subventions publiques, mais c'est vrai que c'est un complément pour les budgets des festivals et c'est un complément, je dirais, pratiquement maintenant pour tous les festivals. C'est-à-dire dès lors qu'un festival est un peu installé au niveau régional, soit la région, soit la ville vont être là parce qu'ils attendent aussi des retombées de ces festivals, ils sont très attentifs. Alors ça marche pas à tous les coups, il y a des fois où les les entreprises rechignent, mais dans l'ensemble on trouve aujourd'hui du mécénat et j'ajouterais en plus que de plus en plus le mécénat participatif se développe aussi. Et donc, mais en même temps, si vous voulez, ça reste relativement marginal. Par exemple, prenez un festival comme le festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, c'est-à-dire un festival typique qui attire les entreprises, c'était une évidence. Le sponsoring, c'est à peu près 18% de son budget. Donc là, c'est considérable. Mais pour la plupart des festivals, ça va être 2%, 3%, 4%, etc. C'est pas rien, hein. Mais ça, évidemment, c'est pas avec ça qu'on va payer les artistes. Hein. Donc la réflexion sur les artistes, elle demeure. Il faut respecter le droit d'auteur. Il faut que la subvention soit associée au fait que, effectivement, on paye les artistes. Il faut peut-être aussi diversifier les ressources côté mécénat, mais aussi peut-être côté retombées, côté lien avec le territoire, etc. Enfin, il y a des choses à inventer pour pouvoir avoir un peu plus d'argent, mais aussi pour mieux le partager et pour savoir que dans ce partage, ben, les artistes sont là.
Benoît Thibergien.
Oui, alors le mécénat, pour nous, au Détour de Babel, ça représente une part très très minime. Mais le mécénat est attiré par les grosses institutions, plutôt les institutions prestigieuses, pour lesquelles ils souhaitent associer leur image, que ce soit par rapport à une communication interne, une communication externe.
Il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi des questions fiscales, hein, on l'a entendu dans ce que disait le directeur du Hellfest.
Il y a aussi des questions fiscales au départ, bien sûr. Mais pour des festivals qui sont quand même assez majoritaires, que ce soit des festivals de jazz ou des festivals de musique du monde ou des festivals de musique de création, le mécénat n'est pas, comment dire, est marginal. Nous, alors il y a mécénat et puis il y a aussi échange en industrie, sponsoring, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, nous, on a des accords avec un certain nombre de partenaires ou de prestataires qui nous font des faveurs ou des tarifs spécifiques en échange. C'est un échange d'image, en quelque sorte. Le mécénat, c'est beaucoup plus difficile. Nous, on a eu la chance d'avoir été mécénés par Orange pendant plusieurs années, mais c'est le seul mécène qui nous a accompagnés sur cette dimension musique du monde, ouverture aux cultures du monde, quoi. Mais l'économie de la majorité de ces festivals intermédiaires, c'est une économie où il y a de l'argent public, parce que c'est indispensable qu'il y ait un investissement de l'État et des collectivités locales dans les festivals, y compris de l'État d'ailleurs, qui s'est pas beaucoup occupé des festivals, considère que ça fait pas partie de son champ ou son précaré. Ce que je suis pas d'accord avec ça, mais parce que sinon, ces musiques-là, la diversité de ces musiques risque d'être menacée. Alors, il y a les financements publics, et il y a aussi, et ça, c'est de plus en plus important et c'est très intéressant, c'est les financements professionnels, c'est-à-dire les sociétés civiles qui gèrent les droits voisins, la rémunération équitable, et qui, au fond, apportent une sorte de rééquilibre ou de péréquation par rapport entre les gros et les petits, quoi.
Les festivals permet-il aux artistes d'être rémunérés? Donc les festivals sont-ils encore profitables aux artistes? C'est la question qu'on se pose ce soir. Est-ce que ça a un sens de renverser la question et de se demander si finalement certains festivals, qui vivent aussi grâce aux artistes, pourraient être menacés par les cachets demandés par certains artistes, des chanteurs essentiellement? On évoquait tout à l'heure des chiffres absolument ahurissants, 1 million d'euros pour certains groupes ou certains chanteurs pour une soirée. Est-ce que ces montants risquent de mettre en péril des festivals, Françoise Benhamou?
Alors je dirais oui et non, parce que c'est aussi au festival de prendre leurs responsabilités, de se demander si ils veulent jouer ce jeu-là. C'est un jeu qui est assez dangereux et qui est mené aujourd'hui par évidemment les grands festivals qui sont entre les mains de Live Nation, de AEG, de Vivendi. Et donc il faut faire attention à cela, mais je crois que l'identité d'un festival peut être tel qu'il peut se passer d'avoir des artistes qui demandent des sommes pareillement folles. Hein. On peut monter sans doute pour un grand festival qui est déjà installé à des cachets de l'ordre, par exemple, de 250 000 euros, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est ce que demande Paul Naref. Mais il y a des cachets qui sont complètement fous. Alors à ce moment-là, on rentre dans une autre logique qui est celle du festival blockbuster.
Autre menace, hein, sur les festivals, c'est l'uniformisation qui passe par le développement notamment de franchises, hein, par ces grands groupes qu'on a évoqués déjà au début de l'émission, Live Nation, AEG, Vivendi. C'est ce que dit aussi le patron de la branche française d'AEG, hein, l'un des plus grands groupes de spectacles. Il s'appelle Arnaud Merceman.
Sur le sujet des festivals, il y a quand même quelque chose d'assez nouveau et assez récent qui est vraiment le marqueur de cette industrialisation, c'est la franchisation des festivals. Avant, un festival, c'était créé par des passionnés sur un territoire, c'était ancré localement. Maintenant, aujourd'hui, on a 8 Lollapalooza dans le monde, 5 Download, enfin, au bout d'un moment, c'est une franchise comme Starbucks ou McDonald's. On vient, les artistes connaissent la marque, ça leur parle. Et on en ouvre un peu dans tous les pays. Ce qui amène des homogénéisations de programmation, parce qu'il va y avoir des achats en bloc pour Lollapalooza. On va acheter 8 dates de la même tête d'affiche sur les 8 Lollapalooza.
Et l'artiste lui-même est content parce que
exactement, parce qu'au moins son été est fait, ça y est, c'est fini.
Arnaud Merceman, le patron d'AEG France sur BFM Business, le début juillet, il y a quelques semaines donc. Est-ce que c'est ça le danger, Benoît Thibergien, la franchisation? L'un des dangers.
Moi, je pense que le danger, c'est quand l'artiste devient un produit d'appel. C'est-à-dire que on assiste bien sûr à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire à ces concentrations horizontales ou verticales, notamment de ces deux géants américains qui sont Live Nation et AEG, où au fond c'est toute la chaîne de la, toute la filière musicale qui est entre les mains de ces groupes financiers. C'est-à-dire que le groupe gère le catalogue d'artistes, gère le booking, gère le management, mais gère aussi tout ce qui concerne la billetterie, les tickets, les produits dérivés, etc. Donc finalement, l'artiste devient un produit d'appel et devient un marché d'opportunité pour des affaires ou des bénéfices qui vont bien au-delà de simplement la prestation de l'artiste sur scène. C'est une vision, une stratégie industrielle qui fait que c'est économie 360 degrés où le groupe possède la totalité de l'ensemble des éléments qui constituent, alors qu'avant on avait un artiste, on avait un éditeur, on avait un booker, etc. Et chaque profession avait sa propre logique. Là maintenant tout ça devient des grosses concentrations.
Et vous, ça vous pose problème dans votre travail quotidien d'organisateur de festival?
Pas pour moi, parce que on est là dans des gros festivals qui sont assez mainstream. Mais il y a des gros festivals comme le Hellfest, le Festival de l'Orient, l'Interceltic Festival ou les Vieilles Charrues, qui sont des festivals associatifs qui ont monté comme ça pendant 10-15 ans. Maintenant, on parachute comme ça des énormes manifestations qui ont leur propre logique commerciale et qui risquent, et à l'ombre d'un grand chêne, rien ne pousse, et donc qui risquent d'assécher les opérateurs culturels qui font vivre l'ensemble de la vie culturelle et des festivals, de la majorité en tout cas en France, et qui risquent finalement on risque de se retrouver avec des énormes machines, des blockbusters, et puis des petits festivals, des marchés de niche qui sont pour des spécialistes, et qu'au milieu il va y avoir comme ça un grand trou. C'est pour ça que je pense qu'il faut bien faire attention à ce qu'on puisse garder cette diversité, puisque s'il y a perte de la diversité, là c'est quand même très grave.
Bon, il nous reste une minute, je vais vous poser la question qui donne son titre à cette émission, hein. Les festivals sont-ils encore profitables aux artistes? Il nous reste donc une minute. Votre réponse à cette question, Stéphane Lagoutte, je crois la connaître, mais donnez-nous-la quand même.
Oui, non, mais ils vont l'être, ils le sont. Les directeurs de festivals apprécient les photographes, travaillent pour eux aussi. La vision n'est pas toute noire. On s'apprécie les uns les autres, travaillons ensemble, travaillons sereinement et logiquement pour que ça serve à chacun. Et d'autant plus que la photographie française actuelle est très très foisonnante. Il y a des très bonnes choses qui se font. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de solution.
Françoise Benhamou.
Oui, ce double mouvement de concentration et d'uniformisation qui a été mis en avant, c'est vrai, mais moi je crois que quand il y a trop d'uniformisation, la demande s'essouffle. Et donc même les grands groupes seront obligés d'aller chercher de la diversité, d'aller chercher des jeunes artistes, des nouveaux artistes, etc. Et donc je crois que effectivement on va garder ces gros festivals blockbusters et des petits festivals, mais la diversité culturelle ne me semble pas nécessairement menacée pour autant.
Benoît Thiberger, en quelques secondes, les festivals sont-ils profitables aux artistes aujourd'hui?
Moi je pense qu'ils sont très profitables aux artistes et qu'il faut absolument qu'ils continuent, parce que ce sont des lieux de prise de risque artistique, ce sont des lieux aussi des communautés éphémères qui font que ce moment partagé est un moment partagé avec le public, est tout à fait précieux, et c'est aussi une possibilité de valorisation et de notoriété des artistes, à condition que ces festivals puissent continuer à exister, et je pense que c'est important, c'est aussi une responsabilité publique.
Un regard positif pour terminer cette émission, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, on l'a bien entendu avec ce que nous a dit Stéphane Lagoutte. Merci à tous les trois, Benoît Thiberger, directeur du Festival des Tours de Babel et administrateur de l'organisme France Festival, Françoise Benhamou, professeur des universités, auteur de l'économie de la culture aux éditions de la Découverte, et Stéphane Lagoutte, donc photographe, co-directeur de l'agence Myop. Un grand merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Laïla Saïdi, Coppelia Ménardi, Isolt Sicard, Imène Mélaz et Marine Lerouge. Réalisation ce soir, Alexandra Longuet. Prise de son, Florent Bujon. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end à l'écoute de France Culture. À lundi, 18h15, nous nous demanderons, à l'occasion de la rentrée politique, la rentrée des Verts, si l'écologie politique est encore vivante.